Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MGV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Et ben voilà, il est 9h40 sur France Inter, l'instant M, soyez les bienvenus.
Vous êtes en direct, allez-y.
Février dernier, dans Libé, Yann Moix dénonce le protocole de la bavure instauré à Calais. Vous vous souvenez, Yann Moix oublie une partie de la réalité, répond la rédaction de Nord Littoral, dont les journalistes sont sur le terrain. Vous êtes la honte du service public, enfonce la maire de Calais, car Yann Moix est aussi une voix de France 2. Depuis quelques jours, du Yann Moix partout. Adresse virulente au président de la République, qu'il qualifie de traître à la nation. Il lui adresse un livre. Il avait promis un film, le voici, samedi, sur Arte. Il avait promis des images choc, vous ne les verrez pas. Pourtant, des images, il y en a. Des chocs aussi, produits par ceux à quoi on ne s'attendait pas. Des rires, des chansons d'Éric Chardin, des ralentis, des répétitions, des blagues qui font mal. Tout un attirail de mise en scène qui agace pour mieux bousculer le regard. Pas un travail de journaliste, mais le langage d'un écrivain citoyen qui a cherché une nouvelle grammaire pour raconter Calais.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Yann Moix.
Bonjour.
Bonjour. Quelle petite voix.
Bonjour. Madame Rousy, bonjour.
Voilà, mais c'est pas mal. Recalais, c'est le titre du film. Il est diffusé samedi sur Arte à 18h35 dans cette case Arte Reportage qui n'a cessé de réinventer des langages. C'est une case dont on parle souvent dans l'émission parce que c'est une case normalement réservée aux journalistes et aux reportages d'infos.
C'est une case magnifique.
C'est une case magnifique.
Sur
c'est
Arte.
C'est une case qui a notamment confié à des cinéastes et à des écrivains et à des photographes des cartes blanches.
C'est le plus bel espace de liberté de la télévision, je pense.
Vous pensez ?
Dans ce genre, pour ce genre d'exercice.
Bon, bref.
C'est fabuleux de savoir qu'Arte existe quand même. Non mais franchement, ouais. C'est rassurant.
C'est bien de dire ça en pleine réforme de l'audiovisuel public. J'espère que vous serez entendu. Et par ailleurs, vous serez peut-être lu. Ça s'appelle Dehors et ça vient de paraître chez Grasset. À propos de livres, Yann Moix, vous teniez à ce qu'on entende cela ici, dans l'instant M. Et c'est un choix éditorial fort, puisque vous en faites l'ouverture du film Conversation avec deux migrants. On parle de lecture, justement.
En fait, moi, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu Balzac, Honoré Balzac, Jean Jaurès, Victor Hugo, Molière, Camus, Albert Camus.
Et Hugo aussi, Victor Hugo.
Oui. Les Misérables.
Tu as lu Les Misérables?
Oui.
Tu as lu Les Misérables en français?
Oui.
Et la France t'accueille ici à coup de bâton et de gaz.
Oui.
Bonjour. Bonjour. C'est vous le débile qui osez traiter notre mère de simple sous-fifre, là? Ouais. Qu'est-ce que vous venez faire à Calais, vous?
Vous filmez?
Voilà, c'est l'ouverture du film. Il fallait commencer par Zola et Victor Hugo et Camus et Balzac.
Ah oui, d'ailleurs moi je commence toutes mes journées avec Zola, par exemple. Mmh. Quand je me lève le matin, je lis Rougon-Macquart. Et je m'aperçois que je ne suis pas le seul. Puisque dans les sous-bois de Calais, j'ai rencontré deux Pakistanais, juifs d'ailleurs. Ce qui n'est pas simple d'être juif au milieu des Afghans et des Pakistanais, qui m'ont demandé des livres, qui m'ont demandé des classiques français et des livres de prière aussi. Et ce que j'ai fait, et c'est très étrange de voir que ces deux jeunes qui ouvrent le film avaient lu Victor Hugo, Les Misérables, dans leur pays.
Et moi, en même temps, parce que ça devient aussi une tarte à la crème, le migrant qui a lu Zola et Balzac, vous n'êtes pas le premier à le raconter.
Je suis le premier à l'avoir lancé, justement, c'est devenu une tarte à la crème que j'ai lancée moi-même. Quand vous êtes l'auteur d'un lieu commun, vous ne pouvez en être que fier, vous voyez.
Est-ce que le lieu commun peut avoir quelque chose de gênant? Est-ce que quand on parle de dignité et de solidarité, on se dit que le dernier des illettrés y a droit comme les autres?
Ben, vous prêchez un convaincu.
Ouais.
Il est bien clair que là, j'ai voulu montrer le contraste entre des gens dont la France ne veut pas et qui ont lu Victor Hugo, et un Français dont la France veut, parce qu'il est Français, il est né en France, qui n'a jamais dû ouvrir un seul livre de Victor Hugo, et qui me hurle dessus, et qui ne voit même pas les deux exilés avec qui je suis en train de discuter. Ils sont invisibles.
Mais on est bien d'accord que du clochard...
Vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire? Vous
non.
êtes en train de dire...
Non,
mais
non,
vous êtes
non,
en train de dire que c'est un cliché.
Pose.
Vous êtes en train de dire
non, c'est...
que le fait que des Pakistanais ou des Afghans ont lu Victor Hugo est un cliché.
Non,
mais pour moi, c'est un truc
cliché.
Qui m'étonne à l'infini.
C'est pas un cliché. Ce que je dis, c'est que
ça devient un cliché.
C'est que du clochard sur un trottoir d'une ville française, on ne dit pas jamais. Et pourtant, il a lu Victor Hugo.
Parce que c'est pas
et il n'a même pas le droit au RSA.
Je n'en sais rien. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas mon sujet. Quand je traite un sujet, je n'en traite pas un autre. Quand j'étais à l'école, j'avais une rédaction à faire, je traitais le sujet de la rédaction. Je n'allais pas savoir ce que le hors-sujet pouvait m'apporter d'intéressant aussi. Là, mon problème n'était pas les SDF français ni les clochards français, c'était les exilés venant de Mali.
Mais après, on est bien d'accord que la lecture de Victor Hugo, ça fait pas un critère pour la fraternité.
Si,
si c'est vrai.
Oui, je suis pas d'accord avec vous. S'il y a bien un critère de fraternité sur cette terre, c'est la littérature universelle, c'est les grands auteurs. On méprise sans cesse le génie de la littérature, mais le génie de la littérature.
Aucun mépris de ma part.
Non.
C'est de me dire que la fraternité ont droit, même ceux qui n'ont pas lu et qui ne savent pas lire. C'est tout.
Mais je pense que précisément dans la littérature de Victor Hugo, qui s'intéresse beaucoup à ces sujets, il y a le fait que tous les hommes, entre eux, sont liés par une certaine chose qui nous dépasse tous, une forme de transcendance qui n'est pas religieuse, c'est la parole. C'est-à-dire la transmission de contes, d'histoires, et on n'a pas besoin de savoir lire pour connaître l'histoire des misérables. C'est ça le génie de la littérature universelle. Homère, Virgile, vous croyez que les gens les ont lus, mais ils savent exactement de quoi parlent les aventures de Ulysse, et ils connaissent le périple d'Énée, et ils connaissent Cosette. Et le génie des auteurs universels, c'est qu'on n'a pas besoin de les lire pour les connaître. L'histoire des misérables est connue, y compris par les illettrés.
Alors,
donc j'ai raison.
Parlons des images, Yann Wax. Parlons des images de ce film, puisque ces images, vous les aviez brandies, annoncées, promises. Ces images de violence policière, en réalité, elles ne sont pas dans votre film.
Je vais me fâcher.
Pourquoi ?
Alors, vous j'adore. Hein,
ah bon ?
Vous avez réussi. Oui, je vous aime beaucoup. Une des meilleures émissions. Oui. Je vais me mettre en colère.
Mettez-vous en colère. Non, en fait,
Non, mais ce que vous dites. Non, mais en colère, en gardant un ton fait digne, respectable et respectueux. Non, en colère intellectuellement. Parce que je ne comprends pas que vous ne puissiez pas considérer que les images que je montre dans le film ne sont pas violentes. Elles sont d'une violence insoutenable. Vous avez des policiers qui menacent avec un flashball des jeunes exilés qui traversent un boulevard. Vous avez une jeune érythréenne et un jeune érythréen qui se font gazer.
Qui sont gazés. On ne les voit pas en train de se faire gazer.
Écoutez, vous croyez que... Non mais attendez, vous croyez que j'ai fabriqué des images...
Non, personne n'a dit que vous aviez fabriqué des images. Non, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que...
Je ne comprends pas où vous situez le degré de la violence.
On vous voit tousser et cracher parce que...
Je ne comprends pas où vous placez le curseur de la violence.
On vous voit tousser et cracher parce que l'endroit où vous venez de traverser...
Vous êtes en train de faire du complotisme avec mes images.
Non,
vous êtes en train de dire comme je n'ai
pas
les preuves. Vous êtes en train de dire que comme vous ne voyez pas le moment... où le policier a gazé l'œil d'un exilé, le simple fait qu'un exilé se torde de douleur sur le trottoir ne constitue pas une preuve des violences policières.
Pas du tout. On voit des hommes et des femmes au visage ravagé.
Vous faites du André Bercoff, là.
Oh là, non. Dont on inonde, en catastrophe, les yeux pleins de sérum physiologique parce qu'ils ont été, en effet, brûlés par des gaz lacrymaux. On vous voit vous-même tousser, cracher parce que vous passez par des endroits où il y a des résidus, etc. Simplement, on ne voit pas les policiers en train de gazer ou de cogner, tout simplement, c'est tout. Et ça, soit vous ne les avez pas tournés, soit c'est un choix de ne pas les mettre. C'est la question des choix,
c'est les deux,
des images que vous
c'est
avez
les
faites.
Deux. J'ai des images de violence policière qu'on m'a données, c'est-à-dire où on voit véritablement, et je les ai mises sur Internet déjà au mois de février, ce sont des images, le moment, puisque vous tenez vraiment à voir le moment précis où le pshit a lieu, j'ai les images, je les ai mises sur Internet, elles ont été tournées par les exilés eux-mêmes. Comme je ne voulais pas faire un film preuve, un film contre le gouvernement, mais un film tout court, j'ai fait le film que j'avais prévu de faire depuis le départ. Mon but n'est pas de faire un tract politique contre les policiers, contre le gouvernement, mais de faire le film que je voulais faire. Et je voulais
c'est de ça dont je vous parle, c'est de choix de mise en scène.
Vous êtes en colère quand même.
Mais non, c'est ni de complotisme, ni de remise en question de la valeur dont vous parlez. C'est des choix de mise en scène.
Oui, mais je n'aime pas trop vous avez une manière de présenter les choses qui et je vous le dis avec beaucoup d'amitié et de respect. Je répète. Mais on a le droit de temps en temps de s'énerver un peu.
Allez-y.
Et sortir de ses gonds. Je n'aime pas tellement la manière dont vous avez présenté les choses parce que ça veut dire, on ne voit pas le moment où la violence a lieu, on voit que les conséquences.
C'est un choix.
Oui, c'est un choix, mais je trouve qu'il n'y a pas besoin, si vous voulez, d'insister sur le sujet. Les rapports de différents organismes, les rapports de journalistes qui étaient sur le terrain, le rapport de l'Observateur des droits et des images que j'ai déjà mises sur Internet que m'ont donné les exilés, suffisent. Un film tract, c'est pas beau. Là où vous avez raison, c'est qu'il y a un choix de mise en scène, et je me suis dit, finalement, toujours insister sur le fait que la police frappe, c'est bon, je l'ai dit, le message est passé, c'est présent dans le film de la manière la plus digne possible, C'est pas Orange Mécanique.
D'autant que votre discours, Yann Moix, sur la police, il est beaucoup plus subtil que ce à quoi on pouvait s'attendre.
Oui, parce qu'en fait...
Parce qu'il y a beaucoup de moments dans ce film et il y a beaucoup de personnages différents. Donc il y a des moments où vous dites la police. Vous utilisez cet article défini, c'est toute la police, mais ce n'est aucun policier. Il y a des moments où vous dites, petite précision, la police ne fait pas son travail, elle le fait faire par d'autres parce que ce travail est sale et qu'elle ne veut pas se salir les mains.
Vous avez bien
ça,
vu
c'est
le truc.
La police.
Oui, parce que lorsqu'il y a des coups et blessures, on ne peut pas dire la police, on peut simplement dire des policiers. Mmh. 20%, 15%, je ne sais pas, il y a une petite partie des policiers qui frappent vraiment de manière exagérée. Mais là où je me permets de dire la police, c'est que lorsqu'il y a un démantèlement de camps, on croit que c'est la police qui s'en charge, mais ce n'est pas vrai. Ce sont des sociétés privées que la préfecture a commanditées et qui sont faites en général pour... sont des sociétés qui sont des sociétés de nettoyage industriel, des choses comme ça. Et on voit la police qui joue à Candy Crush pendant que ces sociétés privées arrachent les tentes, les mettent dans des bennes, confisquent les affaires des exilés qui sont partis parce que la police les a effrayés au petit matin. Et ça, c'est vraiment la police.
Et les hommes qui sont sur le terrain, vous dites ne filmez pas.
Ils sont masqués
en camp. Là, nous, on veut pas faire ça. Ne filmez pas. D'ailleurs,
et la
vous
police
rencontrez...
sous-traite des sociétés.
Vous
c'est
rencontrez
fou, personne
au
ne
hasard
le sait, ça.
Du tournage un CRS qui a fait son service militaire sous vos ordres. Voilà, que vous reconnaissez tous
le
les
hasard,
deux.
Le hasard.
Voilà, là, c'est un brave type. Ça n'est pas une brute en liberté.
Pas du tout.
Absolument.
Oui.
Vous discutez avec un très gentil monsieur qui est sourd comme un pot, qui a tout fait pour aider une femme moldave, qui vous dit d'ailleurs, ce ne sont pas des bêtes, les migrants, c'est un gendarme à la retraite. Il vous raconte, lui, des violences policières dont il a entendu parler, mais lui, il n'aurait jamais fait ça. Donc, en réalité, il y a la police et puis il y a les policiers pris l'un à...
En fait,
l'un
sur Terre, il y a des individus. Et quand ils font partie d'un groupe, de temps en temps, ils se comportent de manière à penser qu'ils sont dans l'impunité totale. Et à Calais, c'est ce qui se passe.
Et au fond, je me dis que ce film, il a beaucoup de qualités et qu'il mérite d'être vu, débarrassé de tout ce que vous assénez dans vos discours et vos interviews. Et vous avez raison, puisque vous vous servez d'une forme...
Ce que j'assène, c'est la vérité.
Ce film, Yann Moix, il n'est ni exhaustif, ni objectif. C'est pas un film de journaliste, c'est le regard d'un écrivain citoyen, c'est ce que je dis. Et il passe beaucoup de choses dans votre regard. Il passe des choses très émouvantes, où on vous sent en empathie. Il passe des choses très remuantes, où on vous sent révolté. Justement, il y a des parties prises de mise en scène qui sont très radicaux. Écoutez, commentaire de mode.
On dit que cet automne, dans la jungle des verrotières, le fluo revient à la mode. Notamment le rose.
Avec effet et image au ralenti, un peu plus loin, tiens, voici deux autres fashionistas. Voilà de l'ironie, voilà un parti pris narratif auquel on ne s'attendait pas. Voilà le choc de ce film.
Parce qu'en fait, on croit toujours qu'au milieu de la détresse et de la misère, l'humour est impossible. Les associations
c'est de l'humour ou c'est de l'ironie?
Ah non, alors l'humour, ça sert à s'inclure dans un groupe. Oui. L'ironie, ça sert à exclure quelqu'un d'un groupe. L'humour, c'est de l'amour. L'ironie, c'est de la haine.
Donc, c'est de l'humour.
C'est de l'humour parce que les associations leur donnent à manger et des couvertures. Les policiers leur donnent soit de l'indifférence, soit l'ordre de dégager. La seule chose à laquelle ils n'ont pas accès, finalement, c'est un rapport humoristique, qu'on les chambre un peu. Chambrer un Afghan, c'est intéressant parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, sachant que ses
d'autant
compatriotes ne sont pas des amis,
que
c'est
vous
des concurrents.
Que vous le chambrez sur ses fringues et que dans votre livre, vous dites à propos des migrants, des individus dont seule l'invisibilité est tolérée, des colonies de fantômes, des bancs de spectres. Et vous, vous riez de leur allure. Moi, vous vous incluez dans ce groupe et en même temps, c'est quand même une forme de mise à distance, une forme de mise à distance qui provoque un réveil du regard, parce que ces images, finalement, de Calais, on les voit depuis des années, on ne les regarde plus. Donc toute la question de votre travail, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est cette façon de nous faire regarder.
C'est gentil.
Non, mais c'est vraiment cette façon de nous faire regarder. D'un seul coup, de nous faire regarder. Vous allez même encore beaucoup plus loin. Sur un parking de supermarché, conversation avec deux hommes à qui vous finirez par acheter des baskets. Vous mettez en scène cette séquence comme un sketch des Monty Python, avec des rires enregistrés.
Don't drink too much for the health, it's not good, alcool. Too much beer. And then you can't run in the truck and too much beer in New England. You will drink in London.
Et la dame, elle lit son journal tranquillement. Bonjour madame. On est en train de leur demander comment ils vivent un peu les choses parce qu'ils sont des jeunes érythréens ici à Calais. Et donc on voulait pas vous déranger dans votre... Ils nous expliquent un peu comment la police les traite parce que parfois ils les gazent et tout ça. Bon, c'est pas très sympa. Hein. Vous en pensez quoi de tout ça? C'est dur pour tout le monde en fait.
Moi j'ai toujours dit, je suis ni pour ni contre.
Ni contre.
Voilà, ça se finit même par un the end et hop, des applaudissements. C'est pointer l'absurdité et la cruauté de ce spectacle, puisque vous utilisez des codes du spectacle et du divertissement.
J'ai mis des rires factices sur cette scène parce que la scène n'est pas drôle en fait. C'est-à-dire que j'ai fait de l'humour et en faisant de l'humour avec eux, là, je me suis dit, tiens, c'est pas très drôle. Ce que je suis en train de leur dire n'est pas très drôle. Ce qu'ils me répondent n'est pas drôle non plus parce qu'ils sont un peu gênés par mes questions. Donc j'ai mis des rires enregistrés.
Donc c'est des gadgets, c'est hyper agaçant et en même temps ça opère parce qu'il y a des bing et il y a des bang plein le film.
Il y a des passages cartoonesques.
Ouais, il y a des passages cartoonesques.
Même quand un policier frappe, et là on le voit, on le voit, à la sortie d'un camion.
De
on
loin,
peut pas
dire, ouais, si, si.
Ah, de loin, on
le voit. Il met une tape sur la tête d'un homme qui sort d'un camion.
Et là, j'ai mis des bangs comme... Oui, je me suis tout permis. Parce qu'en fait, au milieu de la détresse humaine, on peut tout se permettre aussi. L'être humain continue, la vie continue, l'humour continue. Ce sont des êtres humains. Donc
moi, je trouve que ça va beaucoup plus loin que de l'humour. Je vous fais écouter une musique totalement délirante à un moment où on ne s'y attend pas du tout. Je pense qu'en fait, en faisant ça, vous explorez un registre qui est hyper intéressant, qui est le registre du burlesque.
Exact.
Parce que on voit bien, en fait, c'est aussi une affaire de corps. Tout ça.
Exact.
Le Calais, c'est une affaire de corps. Et le burlesque, c'est la grande tradition cinématographique du corps. Donc, c'est des corps malmenés, c'est des corps épuisés, entassés, c'est des corps qui courent, c'est des corps qui sautent, c'est des corps qui rampent. Et là, cette musique, qui est complètement zinzin, en fait, c'est pour mettre en scène une séquence où il y a des migrants qui courent derrière un camion, qui rentrent dans le camion, qui se font chasser du camion, qui re-rentrent dans le camion.
Il y a 5 Buster Keaton, en fait.
C'est ça.
5 Buster Keaton.
C'est ça, c'est du burlesque.
Oui, c'est du slapstick, oui. J'adore le burlesque et la situation, elle est tragique et elle est burlesque, comme toutes les situations tragiques. Il y a là-bas une absurdité qui n'est non seulement beckettienne, parce qu'ils attendent Godot, mais qui est effectivement aussi Buster Keatonienne.
Complètement. D'ailleurs, vous le dites, hein, la police éparpille des gens qui se regroupent à nouveau.
Et Sonia, avec ce que vous entendez, même les policiers qui courent derrière, c'est le slapstick américain.
C'est
Keaton.
C'est ça.
C'est Harold Lloyd. C'est Chaplin.
Voilà, où nous, on connaît plus le gendarme à Saint-Tropez, mais au final, on peut l'imaginer.
Mais là, on n'est pas dans le muet, là.
Non.
On n'est pas dans le burlesque.
Non, mais c'est ça. C'est la police qui éparpille des gens qui se regroupent à nouveau. C'est la police qui déloge des gens qui se regroupent plus loin. C'est la police qui chasse des gens à 6h qui reviennent à 8h. Donc voilà, c'est ce que je disais.
Il faut bien savoir qu'une fois que les policiers ont fait leur travail de démantèlement, admettons, à 8h, c'est terminé. Si à 8h01, ils voient un exilé revenir, ils le laissent revenir, puisqu'ils ont fait leur travail de démantèlement de 6h à 8h du matin. Donc à 8h01, ils peuvent revoir 300 exilés arriver. Ils ont fini leur travail, il n'y a pas de problème.
Et puis,
ils les laissent réarriver.
Il y a des moments, et c'est en ça que je trouve la grammaire du film intéressante, c'est qu'en fait, il y a des ruptures en permanence de ton, de musique.
Il ne faut pas que le spectateur s'ennuie, en fait.
Oui, ou alors que, voilà, en effet, il ne faut pas que le regard s'ennuie, mais puisque non, notre regard s'ennuie finalement avec ces grands drames de l'humanité qu'on voit tous les jours au JT.
Moi-même, les documentaires sur les migrants
vous
ou les
exilés, vous ne les regardez plus.
J'en avais marre. Mm-hmm. Donc j'ai essayé de faire quelque chose qui ne m'ennuyait pas moi-même.
Donc il y a beaucoup de moments d'émotion en réalité.
J'ai essayé.
Ça finit par une séquence qui est extrêmement émouvante. Et là, la musique...
Vous ne m'en voulez pas, de petits moments de colère de tout à l'heure.
Non, je ne vous en veux pas. Mais
parce qu'on est là aussi pour qu'il se passe des choses à la radio.
Oui, il se passe des choses.
Et sur ce sujet-là, vous avez vu, on s'en porte facilement.
Non, mais c'est vrai que dans votre film,
mais c'est pas une affaire personnelle.
Et je pense que ce film pose plein de questions de choix de mise en scène. Et donc, ce n'est pas une attaque de dire...
Non, je sais.
Finalement, les images de violence policière, elles n'y sont pas. C'est pas une attaque. C'est un choix de mise en scène. Et on peut en parler comme ça, sans être forcément dans le clash, dans le complot, dans l'attaque.
J'avais envie de clash ce matin.
C'est vrai. Pourtant, vous avez déjà passé un bon moment chez Bourdin.
Les gens impulsifs regrettent immédiatement de s'être mis en colère. C'est mon cas. Donc, je suis là maintenant dans le stade de la culpabilité.
Culpabiliser, Yann Moix, culpabiliser. Merci beaucoup d'être venu dans l'Instant M. Alors, Recalais, donc diffusé sur Arte samedi à 18h35. Et Dehors vient de paraître chez Grasset.